Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Thierry Biet, Fred Auguise, Guillaume, Oli Wowo, Xavier Derzko, Guirec Corbel et Léo PNG. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent d'aller sur Patreon pour soutenir cette émission qu'ils apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité de la technologie, d'Internet, des gadgets, tout ce qui fait la tech, tel qu'on l'aime, tel qu'on l'adore, tel qu'on la déteste parfois et tel qu'on aime la détester également. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de faire cette émission. Je suis toujours heureux de faire cette émission, mais je suis aujourd'hui encore plus heureux parce que j'ai la joie de recevoir toute l'équipe d'Upload réunie tout ensemble. C'est-à-dire Jérôme Corben. Franchement, il faut que je dorme un peu plus.
Jérôme Kenborg.
Voilà. c'est une sorte d'entité générale qui s'appelle Jérôme Corbonnet. En fait,
Jérôme Corbonnet, c'est joli.
Bon, Jérôme Kenborg d'un côté. Comment ça va, Jérôme?
Ça va très bien. La crève, mais ça va.
Bah, t'étais en vacances en même temps, t'étais en vacances.
Ah oui, vacances en Bretagne, j'ai la crème, c'est normal. C'est normal, bien.
Corben est là aussi, comment ça va Corben?
Yes, bah ça roule, écoute, j'ai éponge de la gastro familiale depuis ce matin, mais sinon ça va.
Dis-moi.
Moi je suis en bonne santé, donc ça
okay. Pour le moment.
Pour le moment, c'est ça.
Cette émission est sponsorisée par pharmacie.com.
C'est ça, exactement. Et Cédric également qui revient de la pharmacie, n'est-ce pas?
Non, mais moi ça va, j'ai été chercher des vitamines et de conneries, mais ça m'était juste trois plombes, j'ai jamais vu ça. Donc je suis arrivé à moins 20 à la pharmacie, enfin j'étais vraiment avec mes trucs dans les mains prêt à payer. Et je suis sorti à midi.
Non, mais
20
c'est
minutes d'attente.
Qu'est-ce que
justement,
c'est
avec pharmacie.com, ça n'arrive plus, ce genre de
choses. Ouais, non, mais attends, je me suis dit, c'est bon, je vais faire fonctionner le commerce de proximité, tout ça, contre le géant Amazon. Ben non, je pense que la prochaine fois, je commanderai ma vitamine C sur Amazon.
Oh là là, tu abandonnes ta lance, quel traître.
Ah oui.
Bon, bah merci à vous trois d'être ensemble réunis comme une équipe de super-héros d'Avengers de la tech. Je suis très heureux de vous recevoir parce qu'on va parler de plein de choses intéressantes. On va parler d'Oculus qui a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle. On va parler de Facebook qui fait des choses incroyable, on n'aurait jamais pensé ça de Facebook, des choses qui sont pas très recommandables. On a aussi Elon Musk qui décidément se complaît dans sa situation de mauvais garçon de l'internet. Désormais, il a été puni par la SEC aux États-Unis et il continue à faire le malin. On aura aussi des rumeurs sur plein de choses et des petites news intéressantes. Et on va commencer immédiatement avec, eh bien justement, Oculus qui a tenu sa conférence Oculus Connect 5 il y a une semaine environ et qui a annoncé un certain nombre de choses. On va pas vous faire tout le détail de tout ce dont ils ont parlé, mais le truc qui est intéressant, c'est le fameux casque nouveau modèle. Le nom de code était Santa Cruz. On en avait entendu parler depuis un moment. Mais en gros, c'est un petit peu le casque de réalité virtuelle qui répond à tous les fantasmes des gens qui apprécient cette technologie, puisqu'il réunit 90% des caractéristiques des casques de haut de gamme qui sont disponibles depuis quelques années. Et il est en plus de ça complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion à votre PC ou à quoi que ce soit, il n'y a pas de câble qui sort du casque, il est entièrement, vous le posez sur la tête et il n'y a rien du tout à connecter. Donc, alors pour résumer un petit peu les caractéristiques intéressantes du truc et pour résumer les avantages qu'il a par rapport à d'autres casques autonomes, en fait, vous vous souviendrez peut-être, il y a quelques mois, j'ai parlé du casque Oculus Go qui avait, à mon sens, un gros potentiel à son annonce et qui, au final, avait des petits soucis un peu rédhibitoires pour moi quand je l'ai testé. C'est-à-dire que c'était le casque version un petit peu bon marché Facebook, il était autour de 200-250 euros. Donc je dis Facebook parce que on a senti que c'était la version pour tout le monde, un peu comme Facebook. Et il avait deux gros soucis qui faisaient en fait que ça privait cet appareil des avantages, de l'intérêt de la technologie réalité virtuelle. Ces deux soucis étaient, d'une part, il n'avait que 3 degrés de liberté au lieu de 6, ce qui veut dire qu'on pouvait faire des rotations sur soi-même, sur les 3 axes, mais on ne pouvait pas se déplacer sur les 3 axes. Donc on perdait cette liberté de mouvement qui est importante pour le sentiment de présence en réalité virtuelle. L'autre souci, c'est qu'il avait une manette, une sorte de télécommande, qui elle aussi avait 3 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations sur la manette, mais on ne pouvait pas la déplacer, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas en fait modéliser sa main dans l'univers virtuel dans lequel on était. Donc on pouvait pointer sur des choses, mais on ne pouvait pas avoir l'impression d'avoir sa main qui était modélisée dans l'expérience ou le jeu auquel on jouait. Et donc le fait qu'on ne puisse pas se déplacer, donc s'approcher des objets de cet univers virtuel, et qu'en plus on ne puisse pas les manipuler avec sa main modélisée, faisait qu'en fait le sentiment de présence était sérieusement amputé. Et à mon sens, ça c'était un petit peu avoir la réalité virtuelle sans les avantages de la réalité virtuelle. Là, le Oculus Quest, puisque c'est son nom, le nom de ce nouveau casque, il a les 6 degrés de liberté, donc on peut se déplacer dans l'univers, et il est compatible avec les manettes Oculus Touch qui permettent de modéliser la main et les mouvements des doigts, etc. En plus de ça, comme je le disais, il est autonome, donc il n'y a pas ni de caméra à poser quelque part pour détecter le mouvement. Il fait tout ça depuis le casque avec des caméras intégrées au casque et il n'y a pas de câble. Il a en plus une puissance de calcul qui est supérieure à celle de l'Oculus Go, pas tout à fait comparable à celle des appareils modernes comme le PlayStation VR qui est connecté à la PlayStation 4. Là, on parle un petit peu d'une puissance un petit peu inférieure qui serait comparable à la précédente génération de consoles, donc PlayStation 3 et Xbox 360. Voilà, je perds mes références. Mais bon, ça semble être un petit peu le seul problème de ce casque.
Ça allait perdre d'un smartphone Android, quoi.
Ben, un petit peu plus. Le Oculus Go avec les perfs d'un smartphone.
Un smartphone haut de gamme, quoi, en fait. C'est surtout ça.
Bah, justement, tu prends la parole, Cédric. Est-ce que pour toi.
Ah, mais là, je suis hypé.
J'ai failli acheter un Go.
J'ai failli acheter un Go parce que pour moi, le fait qu'il soit autonome, c'est juste obligatoire.
Moi,
ça me saoule d'être branché à mon PC. J'ai failli le faire.
Et quand t'as entendu ce que j'en pensais, tu t'es dit, ah bah non, en fait, Patrick est une autorité en la matière.
Non, et justement, je me suis dit, ouais, si mon expérience va se limiter à regarder des films vite fait dans un petit écran en face de moi, alors que j'ai une télé chez moi, machin, expérimenter Google Maps, j'arrivais pas à déterminer les usages, le même jeu que je pouvais avoir avec ce type de casque, parce que justement, il me manquait ces 6 axes. Cette réponse, en tout cas à Oculus, cette update à Oculus Go est plus que bienvenue. Et tu vois, par exemple, moi, j'aime bien l'idée de la téléprésence avec les avatars 3D. Ça, c'est rigolo, 2 secondes, l'expérience est rigolote. Et mais si tu veux, me contenter juste de ça, c'était pas le truc qui allait faire que j'allais acheter un Oculus Go, quoi. Donc, j'attendais vraiment un update. En plus, le prix est pas complètement déconnant.
Ouais, je crois qu'on ne l'a pas mentionné, il est à $400 aux États-Unis. On imagine autour de 450, peut-être un petit peu
500.
Plus.
Mais si tu veux, là, ça commence à être non seulement abordable, et en plus suffisamment performant pour que, moi, en tout cas, ça puisse être un truc vraiment à acheter, quoi, pour se mettre à la VR à bas coût et sans avoir des équipements des 1080 ou des 1060 dans son PC et un casque qui vaut 700€, quoi.
T'as pas acheté de casque jusqu'à maintenant, c'est ça?
Non, en fait, j'en ai testé plein. J'ai joué avec des casques aussi de Mixed Reality et tout ça. J'ai essayé plein de trucs et c'est vraiment fun. Mais être branché au PC, ça me casse les noix. Il y a le kit sans fil, la Oculus, ça y est, qui est disponible à la vente. Mais
c'est un prix à rajouter en plus, etc.
Ouais, non, mais laisse tomber.
Du coup, je ne l'ai pas mentionné, je crois, mais il sort au printemps prochain, donc ce n'est pas encore disponible. On parle sans doute de quelque chose comme avril, quelque chose comme ça. Corben, donc toi, tu as acheté un Oculus Go, je crois comprendre que tu n'avais pas été hyper satisfait, non ?
Ah non, non, si, si. Non, mais en fait, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, en fait. Il y a une semaine ou deux.
Ah, et tu fais quoi avec ?
Ah bah, je fais quoi ? Bah, pas grand-chose, figure-toi. Parce qu'en fait, non, mais je peux vous expliquer. Si, je regarde des films, par exemple, je me mets sur Netflix, et voilà, ce qui est sympa pour pas déranger le soir dans le pieu quand tu veux mater un film. Après, sur la qualité, bon, bah, il y a toujours ce problème un peu de flou sur les bords, mais c'est pas vraiment un problème, hein. C'est un truc volontaire de la part
du Oculus
pour éviter que tu gerbes. Mais voilà, faut s'habituer, quoi. Et après, celui de l'Oculus Go, enfin, les lentilles se règlent pas spécialement. C'est-à-dire que l'écartement des yeux, etc. C'est pas réglable, donc si vous avez les yeux un peu écartés ou une grosse tête ou je sais pas,
tu parles pour toi la grosse tête, c'est ça?
Ouais.
Vous êtes un poisson globe par exemple,
ça. Il se peut que ça soit pas forcément super bien ajusté au centre des lentilles. Après, moi j'ai des lunettes, et ce qui est top avec celui-là, c'est qu'effectivement il n'y a pas de fil. Moi j'en ai testé plein aussi, il y avait souvent des fils, etc., donc c'est la galère. Quand tu fais du 360 et que tu tournes sur toi et qu'au moment tu t'étrangles avec les câbles, c'est pas cool. Donc là, voilà, là c'est, il n'y a pas de fil, donc ça c'est top. La petite manette, bon, ça marche très bien. Et surtout, ça chauffe pas. C'est-à-dire que moi dans les Oculus, je transpirais, mais à grosses gouttes, quoi, en mode sauna, quoi. Et là, celui-là, la dissipation de chaleur se fait par l'avant, en fait, par la plaque avant, et c'est nickel, quoi. Alors, bien sûr, si tu fais du sport dedans, c'est-à-dire si tu joues à des jeux, etc., tu commences à transpirer, donc à faire de la buée et à voir moins bien. Mais globalement, quand tu veux regarder un film, ça va, quoi. Après,
c'est marrant, donc. T'es plutôt satisfait de ton expérience Oculus Go, toi?
Je suis plutôt satisfait, même si. Alors, je suis satisfait. Enfin, c'est ma première expérience, on va dire, à titre personnel, où j'achète un truc comme ça que je peux le tester sur du long terme. J'ai toujours fait des essais à gauche, à droite, etc. Ouais. Mais,
alors, j'ai envie de dire. Pardon, fini. Mais,
non, ouais, mais là, moi, je suis totalement convaincu du truc. Je sais que la prochaine fois qu'Oculus sort un nouveau truc, je l'achète. Alors, je vais pas acheter celui-là, bizarrement. Parce que je pense qu'en termes de qualité visuelle, il n'y aura pas beaucoup de changements. Ce sera toujours un peu strié, un peu flou, etc. Par contre, dès qu'il y a des évolutions, sans souci. Alors, moi, le problème, c'est que dès que je joue à des jeux là-dedans, j'ai envie de gerber, quoi. Dès que ça bouge un peu trop, effectivement, j'ai envie de gerber. Donc, le casque en mode console de jeu, comme ce que présente Oculus, là, comme a présenté Oculus cette semaine, ça sera pas pour moi, parce que déjà, je suis pas un gros gamer, le jeu, ça m'intéresse pas plus que ça, et puis le côté gerbe, enfin, t'es vite malade, quoi.
Bah, c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une expérience qu'on... Comment dire ? C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas vraiment eu d'expérience réalité virtuelle poussée jusqu'à maintenant, et donc l'Oculus Go te semblait être, ouais, c'est un petit truc sympa, c'est pas mal. Là où l'intérêt de la réalité virtuelle se révèle vraiment, c'est quand on peut voir ses mains, quand on peut se déplacer dans le truc, s'approcher. Moi, j'en avais parlé à l'époque, mais une expérience vraiment bluffante sur peu des jeux que j'avais essayé, mais quand elle l'était, c'était impressionnant, et c'était quand tu pouvais t'approcher des trucs que tu pouvais voir, quand tu pouvais les manipuler, etc.
Oui, c'est donc, quand tu as la sensation d'être dans l'univers ou dans
exactement.
Le jeu.
Exactement. Et donc, quand on ne connaît pas ça, l'Oculus Go, tu dis « Oh, bah, c'est sympa, c'est pas mal », mais il n'y a pas cet effet waouh. Alors que là, on risque de l'avoir, effectivement. Un souci qui est quand même important pour moi, c'est que les jeux ou les expériences vont devoir être transférés de la bibliothèque Oculus classique vers ce truc qui sera pas compatible avec toutes les expériences dès le départ. Donc, ça me laisse un tout petit peu perplexe. S'il y avait eu une possibilité de jouer à tout ce qui existe déjà sur Oculus, eh ben, ça aurait été immédiatement, moi, quelque chose que j'aurais acheté. Là, entre le prix est raisonnable, mais il faut ajouter le prix des manettes Touch qui est, je sais plus, c'est genre 75€ pièce, donc ça fait quand même un petit peu plus. Mais bon, ça reste quand même quelque chose. Si les expériences et les jeux sont portés pendant les 6 mois qui viennent et puis un petit peu plus après, ça pourrait être une vraie solution. Jérôme, toi, tu es silencieux là. T'as pas l'air d'être trop intéressé par la réalité virtuelle. Est-ce que ça te parle ?
Je m'y étais intéressé au tout début puisque j'avais essayé la version dev des Oculus il y a une éternité.
Comme expérience.
Je voyais le potentiel. En fait, depuis, j'attends le Wing Commander de la VR. En fait, moi, le problème vient pas tellement des visières, mais vient plutôt des jeux. Pour l'instant, tout ce que j'ai essayé en jeu virtuel, il n'y a aucun jeu qui m'a fait dire « je joue mieux avec une visière que sans visière ». C'est pour ça que je parle de...
Peut-être.
Peut-être, mais bon, quand il sera à plus de 6 secondes... Quand je dis c'est le Wing Commander, souvenez-vous, Wing Commander nous avait tous fait acheter des cartes graphiques parce que tu pouvais pas jouer correctement à Wing Commander sans avoir une carte graphique. Je parle aux plus vieux d'entre nous. Mmh. Et ben, pour l'instant, il n'y a pas le jeu fondateur où on se dit mais ouais, je peux pas jouer sans ma visière quoi. Sinon,
on dit le jeu ou l'expérience en fait si on voit un petit peu plus large. Jeu ou
l'expérience. Mmh. Donc et puis après il y a le, en tout cas la Go j'ai failli prendre aussi parce que voilà c'est une gamme de prix où je peux me permettre d'acheter un truc que j'utilise pas tout le temps mais au-delà de 200 €, faut vraiment que j'ai un usage quoi.
Je dirais que en conclusion c'est le premier casque de réalité virtuelle qui a vraiment le potentiel d'être ce qu'on voudrait d'un casque de réalité virtuelle. Maintenant, à voir si ça se concrétisera en avril ou dans les 6 mois qui suivront. En tout cas, le potentiel est là. Et il faut rappeler, comme à chaque fois qu'on parle de réalité virtuelle, qu'on est vraiment encore au début de cette technologie, qu'elle ne s'est pas complètement plantée. Elle s'est pas envolée aussi vite qu'on l'aurait espéré. Elle ne s'est pas complètement plantée non plus, donc il y a encore de l'espoir. Pensez au premier téléphone mobile qui était une valise. On est un petit peu dans ce contexte-là. Donc ça va prendre 5-10 ans pour arriver à la réalisation du potentiel que ça a. Ça ne veut toujours pas dire que ça fonctionnera comme produit de technologie grand public, mais là on commence à voir si ça sera possible et je pense que c'est la première version de cet appareil potentiellement satisfaisant, donc peut-être même que même celle-ci ne suffira pas et qu'il faudra attendre encore un petit peu, mais on commence à envisager ce que c'est vraiment quoi.
Ouais.
Parlons un petit peu de Facebook qui a eu encore des soucis. Bon, il y a 2 milliards d'utilisateurs et c'est évidemment une société tentaculaire, donc il y a des soucis tous les jours presque avec Facebook, mais au-delà des comptes hackés qui ont été hackés avec une technique vraiment compliquée que je ne vais pas détailler ici et c'est pas vraiment, même ce sujet, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce qu'il y a des hacks tout le temps, plus ou moins graves. Là, ça a touché 50 millions de comptes dans le monde. Sur 2 milliards, ça fait pas beaucoup, mais bon, 50 millions, c'est quand même un gros chiffre. Ah oui, tu y as eu droit, d'accord.
Donc, ouais, j'ai eu droit, je me suis fait déloguer d'absolument partout et après, le lendemain, j'ai eu un message qui me disait qu'il y avait eu un souci et il me disait pas besoin de changer votre mot de passe. Hein, nous avons réglé le problème, machin, mais voilà.
Oui, bah parce que t'as dû te reloguer, oui, effectivement.
Tu l'as changé quand même, dis-nous. Mais...
Oui, oui.
Ouais, bah oui.
Bizarrement,
bon,
mais... oui.
De fait, c'était pas vraiment la méthode du hack ne nécessitait pas un changement de mot de passe parce qu'ils obtenaient un token en regardant la page en tant que, enfin, c'était hyper compliqué. Mais bref. Le truc sur lequel je veux m'attarder un petit peu plus, c'est un autre sujet qui a terni la réputation pourtant brillante de Facebook. On s'est rendu compte, enfin des chercheurs se sont rendu compte que Facebook utilisait des données dont on ne pensait pas qu'il les utilisait pour vous cibler pour la publicité. Ces données sont lesquelles ? D'une part, votre numéro de téléphone que vous donniez à Facebook pour ajouter de la sécurité à votre compte, c'est-à-dire pour mettre une authentification double facteur sur votre compte, vous pouviez donner votre numéro de téléphone, eh bien, ils utilisaient ce numéro de téléphone pour vous cibler pour de la publicité. C'est problématique parce que c'est un morceau de données qu'on leur donne pour augmenter notre sécurité, pas pour se faire cibler. Et ils l'utilisent quand même pour se faire cibler. Ils disaient pas « on va pas l'utiliser », mais enfin, c'est quand même un truc auquel on s'attend pas forcément. Et l'autre aspect qu'ils utilisent, c'est les données qu'ils ont sur vous par vos amis, notamment votre numéro de téléphone, là encore. Si votre ami upload ou donne son carnet d'adresses pour savoir lesquels de ses amis sont sur Facebook, vous savez que toutes les apps du monde vous proposent de le faire, eh bien là, Facebook avait votre numéro de téléphone sans que vous ne l'ayez donné, et donc peut l'utiliser, d'ailleurs ils le font toujours, pour vous cibler. Et ça, ces deux éléments me semblent, je ne suis pas du genre à me formaliser ou à me scandaliser pour ce type de, enfin pour des choses que Facebook fait sans nous avoir dit, ou etc. Souvent j'ai tendance à temporiser, là j'avoue que ça m'a quand même paru au moins exagéré, on va dire. Corben, toi, c'est un truc, toi qui es focalisé sur les questions de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être pas surprenant de la part de Facebook, mais Je sais pas.
Alors sur, ouais, alors c'est pas surprenant. On aurait pu s'en douter. Hein. Des applications comme Truecaller, par exemple, qui permet de savoir qui t'appelle, se repose sur les carnets d'adresses d'autres gens. Donc effectivement, la mutualisation des numéros de téléphone, voilà. Après, qu'ils s'en servent pour faire de la pub, bah c'est moche, hein, évidemment, ce qui ne, surtout que c'est pas explicite. Maintenant, avec tout ce qui est RGPD, normalement, c'est censé être noté quelque part. Mmh. Mais ça apparaît même pas, je crois, dans les datas qui sortent quand tu exportes ton compte.
Tu sais, Facebook dit des trucs du genre, nous pouvons utiliser vos données pour améliorer l'expérience utilisateur. Ce qui, concrètement, soyons honnêtes,
nous avons les moyens de vous faire parler.
Bah, disons que s'ils vous affichent des pubs de toute façon et que s'ils ont votre profil, plus d'infos sur votre profil, ils peuvent vous afficher des pubs qui vont vous intéresser, on pourrait dire que ça améliore l'expérience utilisateur. Mais bon, mais là, clairement, c'est pas un truc...
À l'insu de ton plein gré. Mais ce qui est gênant, en fait, c'est pas ça. C'est aussi... Enfin, ça, c'est un premier problème. Mais l'autre problème, c'est qu'en fait, ils ont utilisé les numéros de téléphone des gens qui avaient activé la double authentification sécuriser leur compte Facebook. Et ça envoie un mauvais message, en fait. Parce que la double authentification, c'est déjà quelque chose qui est un peu compliqué à appréhender pour la plupart des gens. Enfin, voilà, monsieur, madame Michu, etc., c'est un peu compliqué. Ça demande un effort aussi, parce qu'il faut une app sur son téléphone où il faut aller chercher un code, etc. Donc c'est un peu chiant, mais ça permet quand même de faire monter un bon niveau de sécurité sur son compte. Et malheureusement, là, le signal que Facebook envoie, bah, c'est de dire si vous me donnez votre. Enfin, si vous activez la double authentification, on va vous balancer de la pub, quoi. Donc c'est un problème. Donc ça va freiner pas mal de gens qui à terme pourraient activer ce genre de choses. Donc c'est contre-productif en termes de sécurité. Voilà. Ah, si on met de côté les aspects publicitaires, ça flingue un peu le côté sécu, quoi. Et c'est dommage. Enfin, c'est criminel. Ouais.
Moi, je pense, c'est vraiment là. Comme toi, Patrick, je suis pas effarouché. Je sais à quoi m'attendre quand je suis sur Facebook. Je sais qu'ils m'offrent des services en échange de mon data. C'est à moi de faire gaffe à ce que je leur donne. Mais cette confusion, alors qu'on est justement en pleine pédagogie, qui est déjà compliquée sur la sécurité informatique et l'hygiène informatique, de ne pas être clair sur votre numéro de téléphone, vous le donnez pour la double authentification. Ouais, mais au fait, on va l'utiliser aussi pour la pub. C'est non seulement c'est contre-productif, mais là, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse par rapport à toutes les personnes qui essayent justement d'éduquer un petit peu le monde internet à davantage de sécurité, davantage de prise de conscience, quoi. Là, c'est un peu un coup de saligo, j'ai envie de dire.
Je suis d'accord avec vous deux, comme je l'exprimais au départ. Je dirais, pour me faire encore une fois l'avocat du diable, que si l'intention est peu louable, ou le contraire de louable, critiquable, je crois que les effets vont pas être vraiment notables parce que ce soit qui suit ce genre d'histoire, excepté dans le rendez-vous tech, puisque vous êtes au courant de toute façon, mais qui que ce soit qui suit ce genre d'histoire utilise l'authentification double facteur de toute façon, je pense, enfin pas de toute façon, mais est au courant de ce dont il s'agit et ne va pas arrêter d'utiliser l'authentification double facteur à cause de cette histoire. Donc, l'un dans l'autre, alors, oui, c'est un petit peu...
Je vais apporter une petite précision. Jusqu'à présent, quand tu voulais activer l'authentification double facteur sur Facebook, tu étais obligé de donner ton numéro de téléphone, même si le code que tu recevais passait uniquement par une appli, donc par l'appli Facebook, mais pas par SMS. Donc Facebook forçait un peu la main et il y a des moyens. Je sais pas exactement le faire parce que j'ai pas été voir encore, mais il y a moyen de supprimer en gros son numéro de téléphone, même si maintenant c'est un peu trop tard, mais de Facebook tout en conservant la double authentification. Voilà.
Je crois que je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est possible aujourd'hui.
Oui, c'est possible aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais.
Mais c'est nouveau, quoi. Enfin,
ouais.
C'est...
Bon, donc voilà, c'est toujours bon à savoir, à quoi s'attendre avec Facebook, mais on se doute bien que, je pense que ça n'aura pas énormément d'effet. Personne ne va supprimer son compte Facebook pour ces raisons-là, mais si...
Bon, l'accumulation de toutes ces histoires est quand même en train de créer un travail de sape sur la vision du grand public. Hein. Je parle pas de nous, parce que nous, ça fait longtemps qu'on a quitté Facebook, plus ou moins. Mais le grand public commence à se dire... What the fuck, quoi.
Bah, ma chérie, elle songe à supprimer son compte dans pas longtemps.
Hein, ah, elle songe, mais...
Non, mais elle s'en sert pas. Enfin, c'est, elle m'a dit, je vais supprimer mon compte. Non, mais elle le fera, mais elle s'en sert pas et elle s'en fout. Enfin, voilà, c'est... Alors, OK, il y a ses amis, machin, mais ils communiquent autrement, tu vois, donc après... Ouais.
Ils sont sur Instagram, ce qui est aussi...
Instagram et WhatsApp, surtout. WhatsApp, ça les chauffe à fond la caisse, quoi.
Ouais, mais, donc Facebook et Facebook, en fait, c'est ça.
D'accord. Ouais, c'est ça.
Ça s'appelle tomber de Karim Ancilla.
Ouais, un petit peu. Bon, même si c'est aussi Facebook, c'est pas aussi... Bon, enfin, j'allais dire un truc, mais
je
peut-être
pas. Je
sais pas
qu'elle le sache, par exemple. Ouais. Mais bon.
Ouais, tu vois, c'est ça qui est marrant.
Ils ont pas son numéro de téléphone via WhatsApp, t'inquiète.
Bah, ils ont unifié. Bon, Elon Musk qui fait encore des siennes. Vous vous souvenez de ce tweet qu'il avait envoyé il y a quelques mois pour dire qu'il voulait retirer Tesla du marché public et donc retransformer la société en société privée. Il avait dit « Je suis en train de discuter avec un fonds d'investissement saoudien » et surtout, il avait dit après « Funding secured, donc le financement est assuré. Et il avait dit, je voudrais retirer Tesla du marché en les rachetant à tel prix, je ne sais plus combien, c'était 320, je ne sais plus.
420 dollars,
c'est ça. Alors évidemment, c'est toujours problématique. Puisque c'est toujours problématique de faire ce genre de choses parce que ça peut être une manipulation du cours de la société. Et quand on est une... Ça avait posé énormément de problèmes à certaines personnes qui avaient des actions de la société et d'autres personnes qui voulaient en acheter pour telle ou telle raison. Enfin, c'était évidemment quelque chose qu'un président de société ne peut pas dire. Donc, la Securities and Exchange Commission, qui est l'autorité américaine qui surveille toutes ces histoires, a enquêté. Et ils ont décidé que Elon Musk était coupable. Dans un premier temps, Elon Musk a dit non, je ne vais pas faire d'accord pour avec la SEC. Ça ne serait pas en accord avec qui je suis vraiment. Moi, je n'étais pas coupable. Je n'ai rien dit. Enfin, je n'ai rien fait de mal parce que j'avais vraiment ce funding secured et donc je ne vais pas faire d'accord. Le lendemain, on entend l'annonce qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec la SEC, entre Elon Musk et la SEC. Il a dû payer 20 millions de dollars et Tesla a dû payer 20 millions de dollars aussi. Et il a, alors il n'a pas admis de culpabilité. Donc c'est dans ce genre d'accord souvent l'une des conditions, c'est que non, j'ai rien fait de mal, mais bon, pour que cette histoire disparaisse, on va trouver un accord comme ça. À l'américaine. Il doit abandonner le poste de président du board de la société pour 3 ans. Il doit ajouter 2 directeurs au board pendant 2 directeurs supplémentaires au board. Par contre, il reste président de la société Tesla. Donc, il est président, mais plus président du board. Je vous avoue que je ne connais pas les détails des fonctionnements administratifs des sociétés américaines, ni même des sociétés françaises d'ailleurs. Mais il est en gros... Il a la présidence de la société, mais les gens qui surveillent ce qu'il fait lui, il n'est plus le président du groupe qui le surveille à lui.
Si je peux me permettre, c'est pas bien tout sûr. À fait ça. En fait, il reste, si on compare le système français, il reste directeur général, mais c'est il ça. N'est plus président. Le président s'occupant des actionnaires et le directeur général s'occupant de faire tourner le fonctionnement société, de la société au quotidien.
En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il a une autorité au-dessus de lui qui surveille ce qu'il fait avec la société.
Le board n'est pas au-dessus. Le board, c'est les actionnaires.
Ils peuvent renvoyer le directeur général. Tu vois, si le directeur général fait un mauvais boulot, ils peuvent décider de le démettre de ses fonctions, de changer le CEO.
Oui, mais alors, je sais pas aux États-Unis, mais la direction générale a aussi des moyens contre son board aussi. Il y a une forme d'équilibre, en fait, des pouvoirs. Ouais.
Bon, en tous les cas, il n'a plus tous les pouvoirs au sein de Tesla. Et c'est une... on va pas dire un camouflet, mais enfin, c'est une conséquence attendue et normale de son... ses comment dire, ses aventures sur Twitter. Notons qu'il n'a pas été complètement douché par cette histoire, puisqu'il a tweeté il y a quelques jours, quelques heures, « Je suis un vilain garçon » avec bon, c'était un clip de rap, genre en référence claire à sa mésaventure avec la SEC, genre « Oulala, je suis un mauvais garçon, c'est dans ma nature », et en se moquant un petit peu de tout ça.
Ouais, je pense qu'il dort pas assez, le garçon, quand même.
Ouais, ouais, il a un peu fondu un câble, hein, quand
il
même.
Fait, en fait, le problème, c'est qu'je pense que Twitter, là, faut lui enlever, quoi. Faut lui retirer. je serai au bord de Tesla. Et j'aime beaucoup Elon Musk, hein. Je serai au bord de Tesla et de SpaceX et tout ça. Je supprimerai, je prendrai son smartphone, quoi.
Mais il y avait pas cette condition, d'ailleurs, qu'il n'avait plus le droit d'envoyer des tweets sans que quelqu'un les vérifie.
Ah, j'ai pas.
Je croyais qu'il y avait ça, ouais.
Je crois pas.
Si, je crois que le board avait justement imposé ça. Ah, mais
peut-être
ça.
Sur la société spécifiquement, ouais. Là, il a pas fait peut-être référence à la société.
Mais bon, c'est clair que quand on est dans sa posture avec une boîte qui pèse lourd comme ça, et puis
en plus, il est. Sa gueule, hein.
Le problème, non, c'est pas enferme sa gueule, mais le problème, c'est qu'il est, en plus, il est sous le feu des médias, quoi. Et aussi bien les médias people que les médiathèques, hein. Les médiathèques, lol. Mais bon, enfin, bref, tous les médias, quoi. Tout le monde regarde ce qu'il fait, ce qu'il dit, et comme connerie, quand il a traité l'autre de pédophile, c'est pareil. Enfin, bref, c'est chaud. Et moi, je serais lui, je me calmerai un peu parce que.
Est-ce qu'il y a un vrai problème, c'est les commentaires que j'ai lus et entendus de différents endroits, est-ce qu'il y a un vrai problème avec Twitter, avec la perception qu'on en a quand on tweet et la perception qu'on en a quand on lit les tweets? Parce que c'est vrai que quand on tweet, on a juste l'impression de dire un petit truc qui nous passe par la tête, c'est genre « Ah, c'est un petit commentaire marrant, machin, ça n'a pas d'importance », alors que quand on le lit comme si c'était la profession de foi de la personne qui l'a tweeté, tu vois, c'est genre…
Ouais, c'est vrai, ça. Ouais.
C'est le danger du langage court en écrit, c'est les engueulades à cause d'un SMS, y a toujours une différence entre le ton qu'une personne croit mettre dans son tweet et la perception des personnes qui lisent. Mais si on revient au tweet initial, son tweet était quand même assez grave parce que très technique, justement. Il n'y avait pas vraiment sujet à interprétation. Il a dit que sa société allait devenir privée, enfin le financement de sa société allait devenir privé, et qu'il avait assuré le financement de ça.
Et ça, il a donné le prix de l'action à laquelle ils allaient racheter les actions.
Ça, c'est une conséquence immédiate sur la bourse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut jeter un désarroi complet. C'est pour ça que c'est dangereux ce qu'il a fait. C'est que ça aurait pu créer un gros problème à la bourse. Alors, on va dire, tant pis, c'est gros Richard. Enfin, c'est gros Richard, c'est des emplois derrière, c'est des entreprises derrière, c'est une déstabilisation de l'économie, quoi. C'est pour ça que là.
Il n'y a pas que des grands bourgeois qui ont des actions à la bourse. N'importe qui, ça peut. Enfin, on peut perdre beaucoup d'argent et pas que si on est.
La SEC, c'est pour ça que d'ailleurs, on rigole pas trop avec la SEC. Ils ont des moyens de te faire parler et surtout de te faire obéir. Et c'est des mecs qui ont ils ont le bras long, ils ont beaucoup de pouvoir.
Bon, donc voilà pour Elon Musk et ses mésaventures financières dans le monde de la bourse. Il continue à être un personnage controversé, on va dire. On va faire une petite pause avant de parler de nos news et de nos rumeurs. Une petite pause pour vous parler encore une fois de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon, hein ? Patreon, c'est un moyen pour les créateurs de financer leur création. Si vous appréciez ce que les YouTubers, les podcasters, il y a d'ailleurs des créateurs, des artistes qui sont sur Patreon. Si vous appréciez ce qu'ils font, vous avez un moyen de les soutenir. C'est d'aller sur Patreon et de dire bah, je donne $1, $2 par épisode, $3 par épisode pour 2 ou 3 épisodes par mois, et de cette manière vous permettez à ces créations d'exister. Nicolas Poulot le dit très bien: après de longs mois à écouter le podcast et à l'apprécier, c'est important, hein, si vous l'appréciez uniquement, j'ai décidé de te soutenir pour la simple et bonne raison que je veux que cela continue. Le gratuit c'est très bien, mais quand ce n'est plus viable pour les créateurs, ça s'arrête et on n'a que ses yeux pour pleurer. pleurer. Non, non, ne pleure pas, Nicolas, ne pleure pas, tout va bien. En plus, et ben justement, c'est pour ne pas pleurer qu'il a décidé de faire ça. En plus, il faut dire que le modèle économique est très souple, donc on ne se sent pas prisonnier d'un abonnement. Longue vie au Rendez-vous Tech. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Et si vous vous dites que l'émission vous apporte quelque chose, vous distrait, vous informe, si vous l'appréciez, eh ben oui, peut-être que ça serait sympa de venir sur Patreon et de donner un ou deux dollars par épisode, peut-être pour trois épisodes par mois, et vous n'êtes pas coincé dans votre abonnement. C'est très simple, vous vous inscrivez en 2 minutes, et si vous voulez vous désinscrire, ça prend encore moins de 2 minutes, c'est très facile, et vous pouvez donc choisir combien d'épisodes vous soutenez par mois, et ça permet à l'émission d'exister, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Patreon, eh ben peut-être que l'émission, bah, je dis peut-être qu'elle n'existerait plus, peut-être que je continuerais, mais elle serait pas aussi bien, on va dire ça comme ça. Donc patreon.com/rdvtech. Continuons avec les news et les rumeurs. Alors sur celle-ci, je suis un petit peu embarrassé parce que il y a la conférence Microsoft dans quoi 3 heures qui commence, oui. et ils vont annoncer.
Non, pas dans 3 heures, c'est pas dans 3 heures, c'est à 22 heures.
C'est pas 20, c'est à 22 heures.
Ah ouais. Pardon, oui c'est à 22 heures. Ouais. Oh bah fou. Donc
d'ailleurs, si tu sais pas quoi faire ce soir à 22 heures, tu veux venir la commenter, n'hésite pas. Hein.
Malheureusement, je suis pas dispo. Okay. Ah mais quel idiot, j'avais oublié. J'avais dit qu'on le ferait. Merde, bon. Normalement, je ne pourrais pas, mais on va voir. Ah oui, 22 heures. Donc, ça serait 23 heures en Finlande. Ah, peut-être pour un petit peu. Je ne sais pas. On verra. Pardon. Donc, qu'est-ce qui va être annoncé? Bon, on fait un bingo. Surface Pro 6, Surface Laptop, Surface
Studio. Ouais, la Surface Pro 6, de toute façon, déjà en vidéo.
Mais avec des ports USB uniquement, pas de USB-C. Ah, une nouvelle version du HoloLens, peut-être. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette conférence Microsoft?
Moi, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça avait des updates matos, mais plus spec, tu vois, genre les nouveaux processeurs, les nouveaux machins et tout ça. J'aurais bien aimé qu'ils dévoilent un device, le penchant du Surface Go, mais en version laptop. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le laptop 2, c'est sympa, mais ça reste ultra cher.
Surface Go avec clavier, quoi?
Tu vois, le form factor d'un laptop. Et en gros, l'intérieur d'un Surface Go, c'est un truc pas trop puissant, mais pas trop cher. Le but, c'est d'aller chercher un laptop pas trop cher, tu vois. Parce que la Surface Go, c'est sympa, mais je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent encore des laptops classiques. Le Surface Laptop est sympa, mais le problème, c'est qu'il est, pas donné, quoi. Enfin, on est sur du matos qui est pas donné. Donc voilà. Et pourquoi pas même, je rêve. Pas d'une banque, mais je rêve d'un appareil Surface qui fonctionnerait sur ARM, enfin. Parce que depuis le temps qu'on nous bassine avec ça, il y a quelques modèles qui sont sortis.
Sur des processeurs moins gourmands, quoi.
Et avec des autonomies de 25 heures, quoi, tu vois. Mmh. Ce qui est annoncé déjà sur les machines ARM. Donc j'aimerais bien débarquer une machine comme ça. Pourquoi pas la fameuse machine à double écran, tu vois, je sais pas.
Ça je pense pas.
Non, mais je pense pas pour ce soir. Mais ce que je veux dire, mais tu vois, je pense que l'informatique de demain, l'autonomie en tout cas, va être un des facteurs clés. Et quand t'as un ordinateur portable qui a 25 heures d'autonomie, ça change les usages, hein, très sincèrement. Mmh. Donc, je sais pas. J'attends moi ça. Après, pour le reste, un update de HoloLens, j'aimerais bien qu'il sorte une nouvelle version, ça pourrait être cool. Et puis voilà quoi.
Ouais. Les autres, quelque chose, je sais
oh,
que...
Oh bah
ouais.
Non, moi tu sais.
Les versions noires du Surface Laptop.
Moi j'attends une nouvelle, j'ai hâte de tester la nouvelle version d'Outlook, quoi, c'est surtout ça.
D'accord.
Mais voilà, je me suis arrêté là.
Jérôme, moi, toi t'as bien aimé le Surface Go
Ouais, j'ai bien aimé le Surface Go, j'aurais aimé qu'il sorte, à l'inverse de Cédric, moi j'aurais aimé un Surface Go, une troisième version un peu plus puissante du Surface Go, peut-être un tout petit peu plus cher, mais je sais que ça va pas être le cas, parce que après ça leur pose un problème de gamme. Non, ce que j'aimerais, c'est que Microsoft revoie un petit peu ses prix. Moi là, j'ai testé beaucoup de Surface ces derniers temps, c'est des super bons produits qui méritent d'être beaucoup plus dans les mains des gens, mais c'est trop cher.
Je le dis,
c'est trop cher. Et le deuxième problème est, voilà, puisqu'on en est dans les rêves, en fait, moi, j'analyse souvent les Surfaces en disant qu'au niveau hardware, ils sont vraiment arrivés à quelque chose de bien. Le principal problème des Surfaces aujourd'hui, c'est Windows. C'est un peu provoque, mais s'ils pouvaient adapter un petit peu plus Windows aux Surfaces, que ça marche un peu mieux en mode tablette, en mode touch, ouais. Ça marche, mais on est.
Mais ça pourrait mieux marcher.
Hyper loin d'un iPad. C'est pas ce qu'on leur demande, hein, d'ailleurs. C'est pas fait pour être des tablettes. Mais ils pourraient optimiser un petit peu plus Windows pour les Surface, quoi.
Ouais, faut être technicien de Surface, hein, pour utiliser les Surface.
Ah, c'est ça. Oh
faut être très, 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 très techos.
Ah, ce Corben, un vrai renard des Surfaces qui sont sur la moindre vanne.
J'aime bien glisser sur
les... Une blague qui tombe pile, Surface.
Oh, pas mal, pas mal. Bon, on va avancer parce que là, ça devient trop difficile à contenir dans ma petite tête. Google a également un événement, pas demain, mais dans une semaine. Oui. Dans une semaine. Et figurez-vous.
Il n'y a plus de secret.
Que, oui, ça y est, c'est terminé. On sait tout ce qu'ils vont annoncer. Il va y avoir un nouveau Pixel. Bon, téléphone, ça, on savait déjà, mais un nouvel ordinateur.
Pixel Slate aussi, une tablette aussi.
La tablette, possiblement. Et le Chromecast version 3 a déjà été vendu par Best Buy. C'est aux États-Unis, une boutique qui a mis en vente la nouvelle version du Chromecast. Alors, elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose de plus ou de différent. Elle est un petit peu physiquement différente, mais bon, la personne qui l'a achetée ne peut pas l'utiliser.
Oui, on dit qu'elle est moche, hein, physiquement différente. C'est un euphémisme, ça.
et donc, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut une mise à jour de Google Home qui sera mise à jour sans doute au moment de la conférence. Mais donc voilà, pas grand-chose de surprenant de ce côté-là non plus. Je ne sais pas si voulait ajouter quelque chose.
Il y a du Bluetooth quand même a priori dedans qui permettrait de faire du stream direct sans avoir à se connecter via le réseau Wi-Fi sur lequel est connectée la Chromecast.
Ouais, donc on peut la trimballer avec soi et donc on se
Ouais, c'est ça. Pour les gens qui s'en servent au boulot par exemple, qui utilisent ça sur des projecteurs sans fil ou ce genre de trucs. Il y a des Apple TV dans les salles de réunion, machin et tout, mais c'est vrai que le Chromecast était un peu chiant pour ça. Donc ça réglerait ce souci là, donc voilà.
Lenovo serait en passe d'annoncer son téléphone pliable. Alors c'est un tweet à moitié leak, mais à moitié pas vraiment parce que Lenovo a retweeté dessus.
On l'avait déjà vu ce truc.
Mais c'est un téléphone. On l'avait déjà vu. Moi je l'avais pas vu.
Ouais,
celui-là.
On l'avait déjà vu dans une conf l'année dernière. En fait, c'était un prototype de téléphone qui devenait bracelet.
D'accord.
Mais il se fermait pas entièrement, tu vois. Ça laisse un petit espace. C'est genre un bracelet pas trop serré, quoi, tu vois.
Ouais. Alors c'est effectivement...
et tu vois que c'est à peu près la même chose. Et je pense que c'est exactement le même proto, sauf qu'ils ont dû avancer techniquement dessus, mais c'est la même chose, quoi. Le seul intérêt d'avoir un smartphone qui se plie dans ce sens, c'est d'en faire un bracelet, une montre, hein, c'est tout.
Alors pour que les gens comprennent,
c'est une cata ce truc. Hein.
C'est pas un téléphone qui se plie genre en deux, mais qui a une sorte de charnière, un petit peu comme celle du Surface. Comment il s'appelle ce Surface. C'est pas le Surface Book ou peut-être c'est le premier Surface Book.
C'est sur Facebook, oui.
Ouais, c'est ça, le tout premier, qui avait une charnière. On voit quand on le plie, on voit encore au milieu. Et là, c'est un petit peu ça. Ça se plie en fait à 5 ou 6 endroits différents, et donc ça fait une sorte de, je sais pas bien comment le décrire. Ça fait un bracelet en fait.
Ouais,
et
pas mais c'est surtout, ça. Apple l'a déjà fait avec l'iPhone 6S. Hein.
Ouais, le bandit. Mais tu tapes Lenovo bracelet phone dans Google et t'as les photos du proto précédent.
C'est une version un petit peu améliorée de ça. Bon, c'est pas vraiment le téléphone pliable. Ils sont en train de surfer sur la hype de Samsung et d'autres.
C'était le 10 juin 2016 même.
Ouh là là, d'accord.
Donc voilà la date.
Ils ont pas vraiment amélioré le truc parce que là c'est vraiment pas un téléphone pliable quoi.
Je l'ai mis sur Skype. Comme ça tu vas voir et ça ressemble énormément à ça.
Ouais, d'accord. Bah écoute. Voilà pour celui-là. Corben, t'avais pas l'air très impressionné non plus.
Oh, mais c'est au niveau de l'usage quoi. Qu'est-ce que ça va donner? Enfin, non, tu vois, je l'ai vu le truc qui se plie. Bon, bah ouais, ok.
Il est un petit peu plus beau que le prototype, mais bon, c'est vraiment pas incroyable quoi. Quoi d'autre
Ce matin, quelqu'un m'a donné quand même un bon usage. Ça permet de faire des photos dans les coins. Discrètement. C'est pas mal.
Entre guillemets,
ça
bon usage.
Périscope.
Ouais.
Corben, est-ce que tu as suivi cette histoire de Tim Berners-Lee qui veut créer, enfin qui a un projet qui est en open source et avec une société pour gérer le projet, qui est un moyen de décentraliser les données nos données personnelles. On aurait chacun un pod avec nos données, ça s'appelle Solid, son projet. On a un pod avec nos données et on peut décider à qui on les distribue, pour quel usage, mais on les garde chez nous. C'est ça le projet ?
Voilà, c'est ça. J'en sais pas plus que toi. Effectivement, c'est ce qui a été présenté. Et l'idée, c'est... Enfin, voilà, ce qu'il explique, c'est que Internet, en gros, est mal fichu parce que on met nos données X fois partout chez tous les providers et effectivement ça se fait pirater, ça se fait exploiter à des fins publicitaires, etc. Et là l'idée c'est de décentraliser la donnée en créant des pods alors qui marchent, tu pourrais héberger ton propre pod mais c'est hébergé chez des fournisseurs après n'importe qui peut l'installer, enfin je sais pas si les sources sont dispo pour l'instant mais en tout cas il y a déjà deux fournisseurs de pods ça marche un peu comme Mastodon si tu veux, tu vois, chacun met son petit truc et puis tu crées ton compte et après tout est relié quoi. Mais est-ce que ça fonctionne toujours?
Oui. Mastodon, oui, fonctionne toujours. J'ai même des gens qui m'ont encouragé à aller sur Mastodon il y a quelques semaines. Donc, même pas, il y a une semaine, et je suis allé y faire un tour. Bon, c'était... Visiblement, il y a des gens qui sont très intéressés. Pour ceux qui ne savent pas, Mastodon, c'est une sorte de Twitter décentralisé.
Là, il y a encore des gens sur Google+. Donc, bon...
Je ne suis pas sûr.
Mais... Si.
J'y suis allé
hier, figure-toi.
Bah, bravo.
Il y avait un peu d'écho, mais c'était sympa.
Bon, donc en gros le projet de Tim Berners-Lee, oui. c'est s'appelle Solid. Donc ça c'est la plateforme en fait. Enfin et l'idée c'est ça, c'est d'avoir tes datas et tu restes propriétaire de tes datas, etc. Et tu te les balades et en gros les sites viendraient se connecter à ton pod pour utiliser tes datas en fonction de ce que tu leur autorises, etc. Et lui a créé une boîte autour de ça qui s'appelle Inrupt, je crois, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ouais.
Et voilà. Mais après, je sais pas jusqu'où il veut en venir. Est-ce que ça c'est la première brique de quelque chose d'autre? En tout cas, c'est de la décentralisation, donc ça c'est très bien. Et puis peut-être qu'après, justement, ce pod avec tes données personnelles qui seront peut-être ton âge, ton nom, etc., c'est ce genre de truc, va s'étendre à peut-être tes fichiers, ton site web, ta présence en ligne. Quoi,
mais global. Pour les données spécifiquement, une fois que tu as donné les données à quelqu'un, tu les as. Je sais que pour y accéder, bon, pour les garder à jour, etc., c'est toi qui les as sur ton pod, mais une fois que tu as donné, imaginons par exemple que Facebook utilise ça. Facebook dit, vous pouvez vous connecter à Facebook avec votre pod solide. Et donc, nous, au lieu de vous faire remplir un formulaire avec toutes vos données personnelles, on va se connecter à votre pod et on va récupérer toutes les données de votre pod. Bah, après, ils les ont quand même, les données. Et oui, ils n'auront pas la toute dernière version si tu décides de couper l'accès. Mais enfin, ils ont les données. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait un effet vraiment de protection important de tes données personnelles.
Alors je suis pas rentré en ce niveau de détail donc j'en sais rien, je pense que c'est des gens intelligents, ils ont dû réfléchir à ça. Après ce que je pense c'est que ça doit être par rapport à ce que toi t'autorises. Donc plutôt que par exemple tu vas sur n'importe quel site web et puis tu te fais siphonner parce qu'il y a un tracker Facebook et machin et tu sais pas trop ce qui se passe, etc.
Site web il peut utiliser tel et tel truc et il aura rien d'autre.
Et tu peux peut-être aussi lui retirer des choses. Peut-être que même s'il copie le truc, en tout cas, il perd l'accès un peu comme quand tu accèdes une application tierce sur Facebook, quand tu autorises une application tierce à utiliser ton compte Facebook ou ton compte Twitter, tu peux lui. Alors évidemment, ils peuvent récupérer tous tes tweets, mais à un instant T, et tu peux lui retirer après l'autorisation.
C'est ça le problème, c'est que oui, si c'est bien fait, tu peux lui retirer l'autorisation, on est d'accord, mais une fois qu'il a eu tes données, il peut les copier, les utiliser. Bon, après, on peut toujours faire des trucs illégaux, mais peut-être...
Oui, puis il faut voir quelles données tu lui donnes aussi, tu vois. T'es pas obligé de lui donner tout, quoi. Enfin, peut-être que, à mon avis, tu dois pouvoir filtrer.
On a une petite perte de qualité avec toi, donc je continue, mais... Disons que c'est plus de contrôle, ce qui est toujours une bonne chose, même si c'est pas un contrôle total, on va dire. Et je l'ai pas précisé, mais Tim Berners-Lee, c'est quand même le créateur du web. C'est le papa du web, on va dire. Pas le papa
d'internet,
mais
le papa du web. Enfin, je sais pas si on m'entend bien, mais il présente ça comme l'internet, la nouvelle version. Parce qu'en gros, le projet est parti du fait qu'il était dégoûté de ce qui est devenu sa création et l'exploitation commerciale des données, etc. Et donc, il a créé ça. Mais bon, après, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste une première brique. Et l'idée, en fait, enfin, en tout cas, je pense que son idée finale, c'est de remettre un Internet conçu comme au départ, c'est-à-dire décentralisé, où chacun aurait à la fois ses données, mais aussi, je sais pas, son site, ses pages web, ses fichiers, etc., accessibles, alors soit sur des plateformes qui se connectent entre elles, mais de manière vraiment peer-to-peer, décentralisée, etc. Mmh. Et pouvoir sortir de ce modèle. GAFA, tout Google, tout Facebook, tout Microsoft, etc.
Il faudra, pour que ça prenne, il faudra qu'il y ait un truc qui ait un énorme succès, qui utilise ce système. Et même si la situation semble compliquée aujourd'hui, ça peut arriver, on ne sait jamais. Et peut-être que ça poussera plus de gens à l'utiliser.
Mais... Je pense que tant qu'il n'y aura pas une volonté derrière qui soit un peu plus... on va dire global, politique et enfin voilà.
Ouais, moi je suis pas franchement, à chaque fois qu'on a eu des disruptions importantes, c'était justement pas grâce à des efforts politiques qui sont importants aussi, mais c'était des nouveaux produits qui venaient bousculer ce qui était établi. Et on les a jamais vus venir, on n'a jamais su ce que ça serait, mais ils sont arrivés et ils ont bousculé ce qui était déjà établi.
Ouais, mais ça, ouais, aujourd'hui, mais quand... tu prends le RGPD, tu vois, tu
prends bien sûr.
Voilà, c'est une avancée aussi sur la protection des données personnelles. Et s'il n'y avait pas eu ça, voilà.
Ce que je veux dire, c'est que là, pour que cette nouvelle technologie prenne et pour que tout le monde soit obligé de s'y mettre, il suffit pas de la mettre en place. Il faut qu'il y ait une nouvelle utilisation qui, peut-être pas découle, mais en tout cas, nécessite cette technologie. On ne pourra pas forcer les grandes sociétés ou même les gens à l'utiliser. Vous preniez l'exemple de Mastodon, on ne peut pas les forcer, on peut pas forcer les gens à les utiliser, même si c'est décentralisé, plus ouvert, plus contrôlable, etc., que Twitter. Là, c'est une idée intéressante, mais qui est nécessaire, mais pas suffisante à une vraie évolution. Ce qui sera aussi nécessaire, ça sera un projet qui plaira, qui explosera, comme ça a été le cas de Facebook ou Twitter en leur temps, ou l'iPhone ou ce que c'est, mais qui utilisera cette technologie. À voir si ça se produira. Google a présenté son projet Stream. Projet Stream, c'est un service de jeu en streaming qui va être utilisé avec le nouveau jeu d'Ubisoft Assassin's Creed Odyssey pendant quelques mois. Et en fait, vous pourrez streamer le jeu dans votre navigateur Chrome. Ça me fait penser à ce dont on parlait il y a presque 10 ans maintenant avec Yann. Les anciens s'en souviendront, et le streaming de jeux vidéo. Je lui fais un petit clin d'œil à Yann. Mais donc là, c'est la technologie s'invite.
Ce matin, des gens se souvenaient encore de votre débat.
je crois que...
Il a marqué.
C'est ça le rendez-vous tech, en fait. Rendez-vous tech, c'est qu'on parle de trucs et sur le moment, on se dit « Ah ouais, ils sont marrants ». Mais 10 ans plus tard, on s'en souvient encore parce qu'on était... on avait les bons arguments et les bons...
Les gens ont retenu que toi, tu penses... Je pensais que le cloud gaming, ça marcherait jamais. Alors, j'ai rectifié la vérité, parce que moi, j'étais là. C'est Yann Allais qui pense que ça marcherait jamais.
Oui, décidément, ma connexion Internet doit pas marcher non plus, parce que tu coupes un petit peu aussi. Mais Yann Allais qui disait que ça marcherait pas, et moi qui arguais du fait que technologiquement, c'était possible, mais que c'était l'offre commerciale qui était compliquée. Et là, on semble arriver, en plus des évolutions technologiques, à des offres commerciales qui pourraient être intéressantes de plus en plus. Bon, ça aura pris 10 ans et pas 2 ou 3 ans, comme je le pensais peut-être. Mais donc, on pourra jouer à des jeux dans son navigateur Chrome grâce à cette technologie de streaming de jeux vidéo. C'est une utilisation évidemment intéressante.
Ça va pas concurrencer un peu Shadow ?
Oui et non, parce que Shadow, moi j'ai interviewé récemment, en fait ils attendent qu'une chose, c'est que Google et Microsoft s'y mettent pour dépenser les sommes qu'il faut en marketing pour que les gens comprennent qu'on peut jouer sur le cloud. C'est des sommes que n'ont pas Shadow et la puissance de frappe que n'a pas Shadow. Après, charge à eux soit de se revendre, soit de rester dans la course en proposant un produit qui est meilleur. Et Shadow est un produit quand même assez différent dans le sens différent. Où c'est un PC que tu as sur le cloud complet. Tu peux faire du jeu avec parce qu'il est équipé pour jouer, mais si tu as envie de faire autre chose avec ton PC, tu peux faire autre chose. Là, c'est que jouer à des jeux, la solution
avouons
de Google.
Avouons que ça semble être l'utilisation principale, puisque le jeu est l'utilisation qui demande le plus de ressources.
Et après, une nuance aussi, c'est que quand tu utilises ton compte Steam ou ce genre de choses sur Shadow, enfin, les jeux ne sont pas compris dans l'abonnement Shadow. C'est-à-dire que tu achètes tes jeux pour ton compte à toi et tout ça, et si un jour tu décides de quitter l'abonnement Shadow pour acheter un PC, tu retrouves quand même tes jeux dans ta base Steam. Là, on parle sans doute de choses où, comme avec le Microsoft Game Pass, c'est du Netflix de jeux, j'arrête mon abonnement, j'ai plus mes jeux. Donc,
Ce qui a des avantages aussi et des
inconvénients. Ce qui a aussi des avantages et des inconvénients. Mais
Et là, ouais, et là où ils risquent d'avoir un avantage sur Shadow PC, c'est que Shadow PC, ils ont un nombre de problèmes à résoudre. Comme les gens, c'est des PC qui peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, bah, certains font n'importe quoi. Là, ça sera une plateforme un peu unifiée où on laissera pas les joueurs traficoter leur
driver le jeu et pas ça. Chose,
quoi. Ouais, mmh. Ouais.
Amazon a annoncé qu'ils allaient ouvrir. Corben, tu nous as dit que tu devais partir avant oui. peut-être la fin. Donc, je te donne l'occasion de t'éclipser maintenant.
D'accord, bah c'est super. Ah, bah écoutez, bonne continuation et puis à bientôt hein, les gars. J'étais ravi de refaire ça avec vous.
Ah, c'était ciao, c'était très sympa. Merci d'avoir été
nous
là.
Nous assistons à une éclipse de Corben.
Lunettes sur la pointe des pieds.
Voilà.
Ciao.
Amazon donc a annoncé l'ouverture d'un nouveau magasin, le Amazon 4-Star, qui va vendre des un magasin physique hein, à New York, qui va vendre des objets Amazon notés 4 étoiles et plus et une sélection de nouveaux produits et qui en plus les vendra moins cher aux membres Amazon Premium. Alors c'est une idée un petit peu étrange, mais finalement, ouais. Est-ce que c'est pas juste un moyen de recruter des membres pour le premium? Est-ce qu'ils vont, enfin, ils vont pas faire de l'argent vraiment avec une boutique physique? Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est le début d'une encore un moyen pour Amazon de s'immiscer dans le monde de la grande distribution en physique?
Tu te trompes, Patrick. En fait, nous sommes fois. Dans l'ère de ce qu'on, en fait, on appelle le phygital. C'est horrible, mais c'est un terme
pardon,
de retail.
Tu as encore été, je suis désolé, t'as encore été coupé, est-ce que tu peux répéter? Ça doit venir de chez moi.
Hein. Ouais, le terme c'est phygital. En fait, c'est le mélange du physique oui. et du digital dans le monde du retail. C'est une grosse tendance et c'est une tendance très très lourde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acheteurs de demain et même d'aujourd'hui, en fait, ils s'en foutent complètement d'où ils achètent. Les lignes se brouillent. Les gens ne font plus vraiment la différence. Quand ils vont en boutique, ils veulent le produit tout de suite avec un maximum de choix. Et si on leur dit, bah non, on n'a pas ce modèle, mais commandez-le sur Internet, alors qu'ils sont dans la boutique, ça leur pose pas de problème. Ça leur pose pas de problème de commander, d'aller chercher dans la boutique s'ils le veulent le jour même. C'est-à-dire que, en fait, on a beaucoup séparé le commerce physique et le commerce digital, alors qu'en fait ils vont très bien ensemble.
Numérique.
Pas bien oui,
numérique.
Tu...
Pardon.
D'accord. J'ai pas vu de site internet où on vendait des doigts encore.
Oui. Oui. On va dire c'est une erreur commune que je fais aussi. et en fait il n'y a pas vraiment de différence. Et aujourd'hui les grandes marques de retail et Amazon en tête hein, parce qu'il amène tout le retail avec lui en ce moment. Le retail, c'est tout ce qui est distribution. Hein. C'est que la grande tendance, c'est qu'on se concentre plutôt sur ce qu'on appelle les tunnels d'achat, le comportement des consommateurs face à l'achat, sans vraiment se préoccuper d'où ça se passe, que ça soit en magasin ou sur un site ou ailleurs ou dans
ce
des qui boutiques
compte
éphémères.
Et qui achète.
Exactement.
Et donc, tu penses que c'est vraiment, c'est pas juste une petite expérience de marketing, en fait?
Une chose, même quand les lunettes virtuelles seront super au point et tout, il y a une chose que les boutiques feront toujours mieux qu'un site internet, c'est le showrooming, c'est de pouvoir regarder les objets, les tester, les toucher, et surtout avoir des idées aussi d'achat. Le gros problème aujourd'hui d'un site comme internet, d'ailleurs, ils vont lancer une nouvelle version.
Comme Amazon, tu veux dire?
Comme Amazon, pardon.
Ouais, c'est si tu fais pas une recherche parce que tu sais ce que tu veux acheter,
exactement.
Finalement, t'as pas de tête de gondole où on te montre.
Et voilà, un supermarché, vous savez comment ça marche. Les produits qu'on sait que les gens veulent, on les met au fond pour les faire déambuler et les mettre devant des produits auxquels ils auraient pas pensé mais qu'ils vont acheter.
C'est ça.
Le problème d'Amazon, c'est que tu y vas pour acheter ce dont t'as besoin, mais tu flânes pas dans Amazon. Il faut vraiment être maso, quoi.
Non, ou des fois tu vas sur les ventes flash, les machins, par thématique
et flash,
tout, mais il n'y a pas le produit qui va te donner l'idée de...
Et tiens, surtout, il n'y a pas le plaisir. Moi, non. Je suis un énorme consommateur numérique. J'achète quasiment tout maintenant en ligne. Et pourtant, on continue à faire des balades shopping où on n'achète rien, mais on continue à regarder des trucs, quoi.
Pour les acheter ensuite sur Amazon.
Exactement.
Depuis son téléphone directement dans la boutique, pourquoi?
Mais je l'ai déjà fait. Et parlez-en dans les fringues, c'est courant. Maintenant, t'as plus le problème de il y a plus la taille en boutique, il y a plus la taille. Bon, tu commandes, c'est bon, il y a pas de problème, quoi.
Les iPhone XS et les Apple Watch 4 sont désormais disponibles. Est-ce que, alors je sais que toi, Jérôme, tu as tout.
J'ai même tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai les deux iPhones et les deux Watch, chacune a une marque. Chacune
oui, je comprends qu'on se fout un peu de toi. C'est vrai que toi, t'as acheté ou pas?
Pas du tout.
D'accord.
Moi, je reste sur mon OnePlus 6 pour le moment, j'en suis très satisfait.
Tes impressions, Jérôme, en quelques mots sur tous ces produits?
Alors, ouais, je vais aller vite. L'iPhone XS, à moins d'être vraiment très porté sur la photo et la vidéo, c'est pas la peine de le prendre le XS si vous avez le 10. Mais il y a des réelles différences. Oui. Il y a des réelles différences quand même au niveau de la caméra. J'en parlerai bientôt dans une vidéo parce que ça sera. C'est trop long à tout dire, mais il y a un énorme progrès de la part d'Apple et qui, à mon avis, prend quelques longueurs d'avance parce qu'ils redoutent le Pixel 3 sur des choses comme le traitement électronique de l'image. C'est très intéressant ce qu'ils font. Parfois un peu trop.
Surtout le mode selfie. Hein.
Voilà, parfois un petit peu trop.
Tu te sens beau quand tu prends des selfies ou pas?
En fait, ils ont un peu forcé sur ce qu'on appelle le denoiser. Ce qui est génial pour les photos de paysage et tout, ils auraient pu le baisser un petit peu d'un ou deux crans pour la caméra de façade. C'est ce qui donne cette impression.
Oui, pour ceux qui savent pas, il y a des tweets et des sujets qui ont été faits.
Beautygate.
Voilà, Beautygate, pas à ce point-là, mais il semblerait que sur les...
C'est le Beautygate, mais c'est trop drôle.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que les photos de visage, en fait, appliquent ce que Jérôme a mentionné, le denoiser, c'est-à-dire que ça va adoucir un petit peu la peau, ça va enlever quelques imperfections. Et donc, les gens se sont rendus compte que ça se produisait et que les photos n'étaient pas aussi fidèles à la réalité qu'on pourrait l'espérer.
Oui, ce qui veut absolument rien dire parce que ça n'existe pas une photo fidèle à la réalité.
Pour Tinder, c'est vachement pratique.
C'est assez sérieux, c'est que c'est toujours la façon de faire d'Apple qui craint. De faire les trucs sans le dire et sans laisser l'option de désactiver, c'est ça qui est agassant en fait.
T'es en train de définir Apple, là.
Mais c'est
comme le Smart HDR qui est activé par défaut, mais à aucun endroit, quand tu prends les photos, on t'indique qu'il y a du HDR, le HDR activé. Alors, il faut aller le chercher dans les paramètres planqués.
Tu peux le désactiver quand même.
Ouais, mais il faut aller le chercher. Surtout que tu vas prendre 1000 photos, tu vas te dire c'est bizarre, mes photos ont un rendu bizarre. Et en fait, c'est parce que le HDR est tout le temps actif, en fait.
Ouais.
C'est pas écrit. Avant, il y avait une mention HDR et tu pouvais le désactiver depuis l'appareil photo. Là, il faut aller dans les paramètres de l'appareil photo, mais en passant par le truc de réglage, quoi. Je trouve un peu Nasbrock d'envoyer les paramètres au fin fond du téléphone.
En fait, dans l'ancien iOS, c'est que tu avais dû changer, parce que si tu mettais HDR automatique, il ne te signalait rien non plus. Hein.
Ouais, mais moi, j'ai pas
mis HDR. Au tout début, il le signalait et tu pouvais le désactiver. Ça a changé il y a un ou deux ans. Ouais.
Bon. Non, sur mon 10, je l'ai eu, ça aussi.
Je joue avec le paramètre HDR automatique.
C'était le précédent. Je sais plus.
Je crois que si tu désactives les live photos, il te met. Je sais plus. Enfin, il y a un truc là.
C'est encore facile.
Et très rapidement sur l'Apple Watch. En fait, moi, je l'appelle l'Apple Watch 2. Parce que c'est franchement, pour le coup, il y a une vraie évolution. La 0, la 1, la 2, la 3 n'étaient que un peaufinage d'un prototype qui était le 0, jusqu'à comprendre ce que les gens attendaient d'une Apple Watch. Et là, il y a vraiment, même si ça se compte en des petits millimètres, mais il y a eu un vrai travail de redesign et on a vraiment pour le coup l'impression d'avoir une nouvelle Apple Watch, ce que j'avais pas du tout eu entre la 1 et la 3, quoi.
J'avoue que ne serait-ce que l'écran qui va jusqu'au bord et au bord arrondi, au lieu d'avoir un écran au milieu de la montre avec les bords carrés, esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus agréable, quoi.
Est-ce que tu as remarqué un truc qui est absolument génial, Patrick? C'est que ça accroche beaucoup moins tes manches. Et ça peut paraître con, mais les vieilles watches accrochaient vachement dans les manches de blouson et tout, comme une grosse montre, tu vois. Et celle-là, elle glisse bien mieux dans les manches. Ça peut paraître con, mais c'est des petites frictions toute la journée qui font que tu l'acceptes beaucoup plus, en fait.
Je crois que le DD de la fistinière aussi à noter.
Ah oui,
beaucoup plus sympathique.
Ils sont contents.
Bon, je vais vous laisser la paternité de ces commentaires et on va avancer vers quoi d'autre. Alors, il y a une Freebox V7 qui va arriver bientôt. Pardon ?
Non, rien, non, je sais, il fallait pas.
D'accord. Bon, écoutez, c'est effectivement la connexion ne semble pas être idéale, donc on va écouter. La Freebox V7 devrait arriver bientôt et Free l'annonce comme révolutionnaire avec des fonctionnalités que personne d'autre ne fait. Alors ça peut faire rire parce que la qualité du réseau de Free est un petit peu limite souvent, voire au-delà de limite, mais il ne faut pas oublier que Free est quand même le catalyseur par lequel est passée une énorme quantité de révolutions, j'ose le dire, de l'industrie du télécom, et pas que au niveau du prix. Il y a eu énormément de choses et la première Freebox faisait beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Il y a quoi ? Le site nosdéputés.fr qui est un résultat intéressant de l'open data. L'open data, qui est donc le principe de livrer à qui veut s'en servir des données diverses, qui a été mise en place de plus en plus par le gouvernement, permet d'avoir un site comme nosdéputés.fr, qui est un site qui recense l'activité des députés de manière à ce qu'elle soit facile à suivre. C'est très bien organisé, il y a énormément de choses, de détails sur l'activité de tous les députés du gouvernement, donc enfin pas du gouvernement, mais des députés du Parlement. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses ou si vous avez besoin d'informations au moment de voter, je vous encourage à aller faire un tour sur nosdéputés.fr. Quoi d'autre ? Renault a lancé son Autolib à Paris et c'est une sorte d'Autolib amélioré, c'est moins cher et on ne se gare pas à des places spécifiques, on peut arrêter la voiture n'importe où, j'imagine qu'ils viennent recharger les voitures eux-mêmes, je ne sais pas comment ça marche, mais ça commence avec quelques véhicules, une centaine, et puis ça va augmenter, donc peut-être que le principe d'Autolib finalement n'était pas si problématique que ça. Si Renault réussit à le faire marcher, ça pourrait être intéressant également. Un commentaire sur l'un de ces trois sujets avant qu'on conclue ?
Écoute, la Freebox V7, j'attends de voir, comme tu dis, ils sont à l'origine d'énormément de révolutions, plus que tarifaires d'ailleurs, dans les télécoms de manière générale. La Freebox Révolution était sympathique, c'était la première à intégrer un NAS et tout un tas de choses. Ils ont toujours fait des trucs qui étaient ultra geeks et tout ça, enfin ultra geeks, qui parlaient beaucoup aux geeks. Et là, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il y ait même l'agrégation 4G dans la Freebox, que voilà, pour les zones qui ne sont pas couvertes en fibre, d'utiliser la 4G et la ligne ADSL et de faire de l'agrégation de connexion et ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est, enfin j'en attends beaucoup en tout cas de la V7 et je pense que Free nous surprendra et je verrais bien Free aller dans ce sens-là, dans l'ajout de choses sur la partie domotique et tout, mais c'est un peu chiant en fait honnêtement parce que je conseillerais jamais aux gens de s'équiper en domotique en se basant sur la box d'un opérateur. Par contre le truc intéressant ça va être au niveau du salon et de l'expérience multimédia. Où là, effectivement, si votre opérateur sort une box à mettre sous la télévision qui est pas mal et qui propose, parce qu'il y a eu un partenariat avec un fabricant d'enceintes connu pour lancer éventuellement une barre de son ou des choses comme ça qui pourraient accompagner la box, pourquoi pas ? Après, dites-vous juste que quand vous résilierez, vous rendrez tout le matos audio qui vous aura été prêté. Mais ça peut être un argument, tu vois. Donc, je sais pas. À suivre. À suivre, en tout cas. Moi, j'attends de voir surtout si ça va être de l'Android TV ou pas. Parce que ils avaient lancé la mini 4K qui permettait de faire tourner tout ça sous Android. Là, elle n'était pas incroyable. Et surtout, il manquait pas mal de choses du Play Store. Donc, et puis Netflix était en particulier absente. Enfin, on pouvait l'installer en détournant le truc et tout ça. On va voir si maintenant ils sont un peu détendus sur tout ça. Et si c'est un peu plus ouvert, mais voilà, je les attends sur ça, moi, surtout.
D'accord. Intéressant, effectivement. Jérôme, un truc à ajouter avant qu'on se sépare ?
Bah, j'aimerais bien que l'autolib marche parce que là, on commence à voir la prolifération des trottinettes électriques dans Paris et ça va vite devenir un problème. Hein.
C'est vrai.
On a quand même des rues à Paris qui datent du Moyen Âge bien étroit. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu parles. En plus, les Français, c'est latin et ils te laissent non seulement ils la laissent n'importe où, mais ils vont un peu faire exprès de la laisser au milieu du trottoir pour faire chier les gens, quoi.
Parce que nous, en fait, on a Lime qui vient de débarquer. Et justement, j'en ai vu une à côté de chez moi il y a pas longtemps. J'ai la trottinette posée au milieu du trottoir la semaine dernière, puisqu'ils ont débarqué la semaine dernière. C'était la semaine dernière, le jour même. J'en ai vu une trottinette posée là devant chez moi, mais au milieu du chemin, quoi. Comme tu dis.
Mais c'est ça.
Le joueur était au milieu.
Elle
est là. Hein. Prenez-la si vous voulez. Mais elle est là.
J'ai vu un mec, et quand on dit que c'est les jeunes qui sont inciviles, là, pas du tout. Le mec, genre mon âge, donc jeune, mais moins jeune. on sent qu'il est arrivé à son rendez-vous. Jeune. Il a lâché sa trottinette au milieu du trottoir et il est rentré dans l'immeuble, quoi. Le mec, voilà, bim. Même pas, tu vois, rangé contre le mur, quoi. Bon, je fais un peu vieux con en disant ça, mais ça va quand même être un problème parce que les trottoirs à Paris, il y a du monde et ça va vite devenir n'importe quoi. Et il y a déjà des Lime et des Birds qui ont volé dans la Seine. Hein. Et je pense que c'est pas que des vandales qui l'ont fait.
Hein. D'ailleurs, vous avez essayé ou pas le service ?
Non, moi pas encore.
Ok.
Moi non plus. Mais le truc, c'est que ça pose vraiment... D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que c'est Lime qui a dû quitter... C'était Manchester, la ville anglaise. Parce que
San Francisco ?
San Francisco, je ne savais pas. Mais la raison pour laquelle ils ont quitté Manchester, c'est qu'il y avait juste trop de vandalisme. En fait, ce n'est pas une super pub pour la ville, mais ils ont dit, mais on ne peut juste pas, ce n'est pas gérable, il y a trop de vandalisme, donc ils sont partis de la ville. Et au-delà de ça, c'est quand même intéressant ce problème de trottinette. Il y a des gens qui disent... Alors, d'une part, c'est un petit peu le problème des vélos puissance 2, parce que les trottinettes, c'est par essence perçu comme un véhicule qui équivaut à une personne à pied, donc on veut sur les trottoirs. Oui, mais comme pour les vélos, tu peux pas rouler sur la route dans des villes qui sont pas équipées, qui sont pas prévues pour. Mmh. Et Paris n'est certainement pas prévu pour. On a déjà des gros problèmes avec les vélos parce que les pistes de vélo, quand il y a pas un camion de livraison ou un bus qui te la bloque, et donc tu dois faire un détour par la route et tu risques ta vie toutes les deux minutes. Déjà, soit quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de piste de vélo tout court. Et
mais que fait Anne Hidalgo ? Elle ne devait pas enlever toutes les voitures de Paris, là, bordel ? Comme ça, il n'y aurait plus que des trottinettes et des vélos.
Il serait temps, des trottinettes, des vélos et des autolibres. Enfin, des voitures Renault, ça serait très bien. Oui, on va encore se prendre des mails.
C'est ça.
on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que oui, une ville comme Copenhague, tu peux mettre des vélos partout parce que c'est organisé. Pour Paris, c'est plus compliqué. Il faudrait des refontes importantes.
Ah
du coup,
il faudrait Haussmann 2 raser quelques rues, élargir, et voilà quoi. Mmh.
Et avec les trottinettes, c'est le même problème. Mais il y a aussi des gens qui disent oui, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est une première étape et c'est un vrai mode de circulation valide, ces trottinettes.
Attention, hein, qu'on ne me prenne pas la portée de mes propos. Je suis à 100% pour les transports alternatifs sur les courtes durées. Enfin, la trottinette électrique, c'est génial, mais quelqu'un qui a un vélo, il fait quand même l'effort de le garer. Là, c'est un peu le problème, c'est que l'objet, les gens le laisse un peu n'importe où et que c'est un objet mine de rien qui prend autant de place quasiment qu'un vélo au sol et sur un trottoir. Et ils auraient prévu au moins quelques endroits où on va dire les gens polis pourraient les ranger. Il va falloir des casiers quoi pour les mettre
mais c'est le principe du truc. Le principe c'est que tu peux le laisser n'importe où. Alors oui, il faut le mettre contre un mur. Mais tu sais, en même temps, on avait eu les mêmes problèmes avec les Vélib à l'origine. Je me souviens que les premiers mois, il y avait des problèmes de vandalisme hyper importants, des vélos cassés, des bornes cassées.
Oui, mais tu étais obligé de leur ramener une borne pour pouvoir lâcher.
Bien sûr,
Ouais. Mais là, c'est des trucs sans borne, quoi.
Peut-être qu'il faut que les gens prennent l'habitude et bon. Peut-être. Oui, ouais. Pour ceux, on l'a même pas mentionné, mais pour ceux qui savent pas, ces services de trottinette, en fait, c'est des services qui fonctionnent par app, comme tous les services du monde aujourd'hui, où ils repèrent la trottinette par GPS, c'est des trottinettes électriques. Donc, vous décidez, je loue telle trottinette, vous allez la récupérer, vous dites dans l'app que c'est vous, vous l'appairez à la trottinette, enfin, vous confirmez, vous faites votre trajet en trottinette électrique, et puis quand vous êtes arrivé à votre destination, vous la laissez, on l'espère, pas juste posée sur le sol, mais contre un mur, et elle est disponible pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un truc qui est très pratique et qui peut aussi envahir les villes et disrupter les villes très facilement. Mais c'est un système qui, en fait, n'a besoin, entre guillemets, d'aucune autorisation.
Il n'y a pas coupe aussi les scooters électriques à Paris ?
Si, il y a aussi les scooters, ouais.
Ouais. Donc il y a mais ça c'est très différent. Les trottinettes c'est des trucs qui a pas besoin de
Le problème de la trottinette c'est que tu la laisses sur le trottoir, un scooter non. Mais en c'est fait c'est l'encombrement aussi. Des trottoirs le problème.
Ouais, ouais. Mais c'est mais la force aussi, beaucoup, c'est que t'as pas besoin de
qu'il y en ait tant que ça en fait.
Ben oui, mais le truc c'est qu'à Paris, surtout dans certains quartiers, on n'a pas des trottoirs comme à New York quoi. T'as des trottoirs où tu passes à peine si t'as des grosses fesses quoi. Donc s'il y a une trottinette au milieu, t'es obligé de descendre sur la chaussée quoi.
Ouais. Disons
après,
que si elle est posée,
tester l'expérience à New York. Hein.
Si elle est posée sur le mur, a priori tu peux passer quand même. Mais à moins que t'aies, je pense en papa, à moins que t'aies une grosse.
Vas-y avec ta poussette, tu vas voir.
Ouais. Bon, donc voilà pour nos réflexions sur tous ces sujets. On vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, on va quand même demander à Cédric et à Jérôme de nous dire où on peut les retrouver sur l'internet. Commençons par Cédric Bonnet.
Yep, ben moi c'est sur Twitch essentiellement, donc mais sinon vous pouvez aller sur studiorenegade.fr pour toutes les infos. Et voilà.
studiorenegade.fr, magnifique. Et si vous écoutez cette émission le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 2, vous pourrez suivre la conférence de Microsoft en direct sur la chaîne Twitch de Studio Renegade. Jérôme.
Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne principale Nowtech et la chaîne secondaire Nowtech Live, où on fait un résumé de l'actu tech tous les jours de 8h à 9h.
Parfait, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également aller commenter cet épisode sur frenchspin.fr où vous retrouverez l'article de l'épisode. Vous pourrez donc nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide. Si vous êtes intéressé par les sujets de l'émission, ça vaut parfois le coup de venir lire les commentaires quelques jours après parce qu'il y a beaucoup de commentaires hyper intelligents qui viennent apporter des précisions ou des corrections sur ce qu'on dit. On n'est malheureusement pas 100% parfait et il y a souvent des choses très intéressantes qui sont dites par les auditeurs. Vous pouvez également trouver le rendez-vous jeu sur le site, mais également sur votre app de podcast. Si vous êtes un petit peu perdu dans l'ensemble des sorties de cet automne, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup tous les automnes, eh bien vous pouvez y voir un petit peu plus clair avec le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité jeux vidéo toutes les deux semaines, comme le faisait le rendez-vous tech à l'époque. Et si vous appréciez le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu ou toutes les émissions que je produis, vous pouvez également soutenir les productions sur patreon.com/rdvtech. Bon, disons que c'est pour soutenir le rendez-vous tech principalement. Vous pouvez, vous le savez, aller décider de donner $1 ou $2 par épisode, autant de temps que vous voulez, pour autant d'épisodes que vous voulez par mois. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous êtes vous avez entièrement le contrôle sur tout ça. Ça se fait en 2 minutes, c'est super simple. Si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez l'émission, pensez-y, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.
Salut tout le monde.
J'ai oublié de dire Corben.info et @Corben sur Twitter, bien sûr.